Le journal de Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour à tous. La réforme constitutionnelle sonne le glas de la révolution ou quand l'Égypte glisse vers le totalitarisme, le président Al-Sissi s'offre une constitution sur mesure. Sauvée des flammes, Notre-Dame de Paris devra être reconstruite d'ici à 5 ans, vote Emmanuel Macron. Propriétaire de Notre-Dame de Paris, l'État est son propre assureur, autrement dit un cas d'école pour les assurances. Abdelkader Merah, frère et mauvais génie présumé du tueur de militaires et d'enfants juifs, perpétuité requise en appel contre le frère de Mohamed Merah, complice des 7 assassinats perpétrés en mars 2012.
Et Madame Catherine Deneuve est l'invitée d'Alexandra Ben Saïd à 7h50, c'est dans 20 minutes, pour son rôle dans le dernier film d'André Téchiné, L'adieu à la nuit.
France Inter.
Torture, censure, arrestations arbitraires, l'Égypte en route, Laurence, vers un régime totalitaire sans précédent.
Aux ordres, le Parlement égyptien a voté hier une réforme constitutionnelle qui permet désormais au président Al-Sissi de prolonger son règne jusqu'en 2034. Les modifications constitutionnelles lui confèrent le pouvoir de nommer les juges ainsi que le procureur général et de procéder par décret. Son armée a la main sur tout. Selon le nouveau texte constitutionnel, l'armée est le gardien, le protecteur de l'État, de la démocratie, de la nation. Tout est dit, Nathanaël Charbonnier.
Un mandat présidentiel qui passe de 4 à 6 ans, une justice aux ordres, des pouvoirs exorbitants pour les militaires, il n'y a plus de doute.
On glisse déjà vers la mise en place d'une forme de totalitarisme.
Et la journaliste chercheuse Claire Talon y voit une différence. En Égypte, il n'est plus seulement question de liberté d'expression. Non, selon elle, on est passé au stade supérieur.
Il y a la mise en place d'un vrai contrôle sur la pensée.
La liberté de penser en Égypte, lui, ne l'a plus. Ham Wakud est un acteur très connu là-bas. Pourtant, il vit en France car il sait que retourner dans son pays, c'est aller directement en prison.
Aujourd'hui, nous sommes condamnés par le tribunal militaire pour exprimer notre opinion. Il y a un film allemand qui s'appelle « La vie des autres ».
La vie des autres qui raconte ce temps où la police politique est-allemande espionnait tout le monde. Alors quoi faire pour lutter contre ce régime totalitaire qui semble se mettre en place ? Pas grand-chose, explique Alain Grèche du journal Orient 21, mais pas forcément rien.
Un, c'est arrêter de vendre du matériel militaire qui sert à la répression. L'autre, elle est effectivement plus difficile de montrer de manière permanente au gouvernement que la question des droits humains n'est pas une question totalement secondaire.
Et dernier outil pour lutter pour la Fédération des droits de l'homme, celui de la médiatisation.
Nathanaël Charbonnier. La France, au chevet de Notre-Dame de Paris, plus de 24 heures après le drame, il n'est désormais question que de mobilisation, de reconstruction, de projets d'avenir et de souscription. Le secteur privé a déjà promis 800 millions d'euros pour reconstruire l'édifice et le chef de l'État souhaite que Notre-Dame soit reconstruite en 5 ans. 5 ans, un défi, un pari, il est trop tôt bien sûr pour établir aujourd'hui un calendrier. Les premiers experts ont à peine pu entrer hier à l'intérieur pour évaluer les dégâts. Dans un premier temps, un dôme devrait être posé comme un parapluie pour protéger l'édifice. 50 enquêteurs sont aujourd'hui mobilisés pour faire toute la lumière sur le sinistre. Le patron d'Europe Échafaudage assure que toutes les procédures de sécurité ont été respectées. Qui a été responsable de quoi ? Côté assurance, il risque d'y avoir une longue discussion dans ce domaine. Et à cette question s'ajoute la difficulté qu'il y aura à déterminer l'origine du sinistre. Car quand on a un incendie chez soi, on se tourne vers l'assureur. Mais avec Notre-Dame de Paris, tout est beaucoup plus compliqué, Philippe Lefebvre.
Eh bien, Notre-Dame de Paris n'est pas assurée auprès d'une ou plusieurs compagnies d'assurance traditionnelles. Car en fait, c'est l'État, propriétaire du monument, qui est son propre assureur. Et donc, c'est encore l'État qui doit prendre en charge via le ministère de la Culture, tous les travaux d'entretien, de réparation et de restauration. C'est l'héritage de la loi de décembre 1905 relative à la séparation de l'Église et de l'État. En revanche, pour ce qui est des entreprises travaillant à la restauration du monument, elles sont en théorie assurées, notamment en cas de déclenchement d'un incendie survenant pendant l'exécution des travaux. Mais pour cela, bien sûr, il faut que la responsabilité de ces entreprises soit clairement démontrée. Enfin, reste la question des œuvres d'art présentées à l'intérieur de la cathédrale. Là, en revanche, il n'est pas exclu qu'elles fassent l'objet de contrats d'assurance spécifiques, comme dans les musées pour les tableaux et les sculptures. Mais pour le moment, pas plus de précision de ce côté-là, tant du côté des assureurs que du ministère de la Culture. Mais on sait simplement que dans ce type de monument historique, il n'y a pas une société d'assurance, mais un pool, un groupe de compagnies qui se partagent le risque.
Philippe Lefebvre, véritable onde de choc, l'incendie de Notre-Dame était dans toutes les conversations hier, y compris dans les écoles. Reportage à Paris, à l'école du Parc des Princes, dans une classe de CM1, où les élèves réalisent des émissions de radio. L'un des thèmes de leur chronique était justement Notre-Dame de Paris. Ils étudiaient l'histoire de la cathédrale depuis quelques jours. Paroles d'enfants recueillies par Sonia Princé.
Ces petits Parisiens étaient tous scotchés à la télévision lundi soir.
Jusqu'à 21h, 21h10, toutes les chaînes étaient mobilisées pour Notre-Dame de Paris. Moi, j'ai tout suivi parce que mon père, il travaille là-bas. Il est sacristain. Il m'a expliqué qu'il y avait un trésor dans Notre-Dame de Paris.
La plupart de ses élèves ont déjà visité Notre-Dame et ils y sont attachés.
Ça m'a choqué parce que Notre-Dame, c'était un beau monument pour moi. Je me suis même baptisée dedans.
La flèche était mon morceau préféré de la cathédrale et elle tombe, donc j'étais un peu émue.
On était au passage où elle était pillée en 1789 par le peuple.
Les enfants sont d'autant plus choqués qu'ils travaillaient justement sur l'histoire et la rénovation de Notre-Dame.
Il paraît qu'ils ont pris presque toute une forêt pour faire toute la charpente, tellement il y avait du bois. C'est comme si on brûlait toute une forêt, ça sert plus à rien.
Pendant la Révolution, elle était abîmée, c'est comme si c'était la Révolution.
Christophe Pêche est leur intervenant en éducation aux médias.
Dans une émission, on a reçu Stéphane Bern. Et on a parlé de pas mal de patrimoine. Donc du coup, quand ils ont eu le choix de sujet, effectivement, il y a plusieurs bâtiments qui sont arrivés comme ça. Donc c'est bien de leur parler du patrimoine et de ce que nos anciens ont fait, quoi.
Et comme Stéphane Bern, les élèves pensent déjà à trouver des fonds pour la reconstruction.
On peut prendre les impôts. Enfin, il y en aura. Par contre, faut payer beaucoup, hein. Donc je sais pas trop.
Pas sûr que cette idée soit retenue.
Vous vous rendez compte comment elle a résisté ?
Exactement. Cette idée, Sonia Princé, n'a pas été retenue par le chef de l'État, car justement, il souhaite des baisses d'impôts, des référendums locaux, une réindexation des retraites. C'est ce qu'Emmanuel Macron devait annoncer lundi au moment où brûlait la cathédrale Notre-Dame. Son allocution télévisée, on le sait, a été annulée en raison de l'incendie. Mais le texte de l'allocution enregistré dans la journée était déjà parti dans les médias. La première réponse apportée par le chef de l'État au grand débat est sans surprise d'ordre fiscal. Il souhaite baisser les impôts des classes moyennes en finançant cette mesure, notamment par la suppression de certaines niches fiscales. Il demande aussi une évaluation de l'ISF dès le début de l'année 2020 pour corriger le tir si nécessaire. Et enfin, symbole d'une élite accusée de favoriser l'entre-soi, le chef de l'État se dit favorable à la suppression de l'ENA.
Il est 7h37, Laurence, l'actualité judiciaire à présent avec la perpétuité requise contre Abdelkader Merah.
Dans le procès en appel du frère du tueur de militaires et d'enfants juifs à Toulouse et Montauban, le ministère public a demandé sa condamnation à la peine maximale pour complicité. En première instance, Abdelkader Merah avait écopé de 20 ans de réclusion pour association de malfaiteurs terroristes, mais il avait été acquitté de la complicité. Alors tout au long de ce deuxième procès, accusation et partie civile se sont efforcés de nouveau de démontrer que cet ancien caïd de cité, converti depuis 2006 à un islam radical, avait non seulement été le mentor de son frère, mais aussi le cerveau et le complice de ses actes. Malgré le manque de preuves dans le dossier, l'accusation espère cette fois convaincre les magistrats des réquisitions accueillies avec soulagement par les familles des victimes. Compte rendu d'audience avec Corinne Audouin.
Elle est venue tous les jours, Latifa Ibn Ziaten, assise au premier rang des parties civiles, au nom de son fils Imad, militaire, première victime de Mohamed Merah. Le geste de l'avocat général qui s'est tourné vers les familles et a prononcé le nom des victimes l'a beaucoup touchée.
C'est très important, ça donne le courage pour nous, le courage pour nos enfants. Et je le remercie au fond du cœur, tout ce qu'ils ont dit, tout ce qui prouve la vérité, parce que la vérité elle est là. On ne doit pas la cacher.
Toutes les parties civiles se disent plus sereines cette année, à l'issue d'un procès aux antipodes du premier. Même si elles redoutent la plaidoirie d'Éric Dupond-Moretti, elles s'accrochent à l'espoir de voir, cette fois, la complicité d'Abdelkader Merah reconnue.
J'attends avec patience, parce que j'ai perdu un fils. Personne ne peut me l'en rendre. Mais en moi, sa mémoire, c'est le plus important.
Face à cette attente, à cette douleur que rien ne pourra apaiser, la défense d'Abdelkader Merah va jouer sur un tout autre terrain, celui des seuls arguments juridiques, pour souligner l'absence de preuves matérielles et rappeler que même en matière terroriste, le doute doit profiter à l'accusé.
Corinne Audouin, 270 cocktails Molotov, des boules de pétanque remplies d'explosifs et plusieurs projectiles ont été découverts dans la nuit du 5 au 6 avril à Bastia, selon nos confrères de France Bleu Fréquence Zamora. Les policiers si on fait cette découverte dans le hall d'un immeuble situé près du Vieux-Port, quelques heures avant une manifestation contre la répression policière. Des jungles de Bornéo à la mégalopole de Jakarta, les Indonésiens votent aujourd'hui pour élire le président du plus grand pays musulman au monde. Le président sortant, Joko Widodo, un homme du peuple qui cultive le consensus, est opposé à un ancien général au passé controversé qui veut diriger le pays avec plus de poigne. Au cinéma ce mercredi, un joli conte musical adapté d'une série de mangas très populaire au Japon. Ce dessin animé, Lise et l'oiseau bleu, raconte la vie d'un orchestre dans un lycée et l'amitié de deux adolescentes qui préparent une audition. Un film d'animation émouvant sur le déchirement de la séparation et l'envol vers une autre vie. Jacqueline Petroz.
Nos amies vivent sur d'elles, enjouées, très entourées. Dans l'orchestre, elles jouent de la flûte avec talent. Misoré est effacée, taiseuse. Elle joue du hautbois superbement, mais toujours en retrait, tant elle admire nos amies. Elles sont très amies. Pour l'audition de fin d'année, l'orchestre travaille une œuvre inspirée de Maeterlinck, Lise et l'oiseau bleu. Ce joli conte, Naoko Yamada le mêle à la vie des deux jeunes filles. Il va influencer leur amour-amitié. Un lendemain d'orage, Lise, devant chez elle, retrouve une petite fille tout en bleu et la soigne. En fait, l'enfant est un oiseau. Et quand approche la migration, Lise sait qu'elle ne peut la retenir sans être cruelle. Pour Nozomi et Misore, le moment de la séparation arrive aussi. Elles vont choisir leur orientation. C'est un déchirement pour Misore qui vit dans l'ombre de son amie. Avec pudeur, Naoko Yamada évoque le besoin de liberté de l'une, l'incompréhension et la souffrance de l'autre. D'un plan serré sur les mains ou du tressaillement d'une épaule, elle dit le sentiment d'abandon. Lise et l'oiseau bleu est un film d'animation lumineux, d'une grande délicatesse sur l'amitié adolescente et la difficile réalisation de soi. Misore comprendra que laisser à l'autre sa liberté, ce n'est pas perdre son amour. La musique intimement liée au film souligne la sensibilité de l'histoire et apporte une douce sérénité.
Lise et l'oiseau bleu aujourd'hui au cinéma.
Merci Laurence Thomas.